Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon ? Tout seul dans mon placard, les yeux cernés de noir, à l'abri des regards, je défie le hasard. Dans ce monde qui n'a ni queue ni tête, je n'en fais qu'à ma tête. Un mouchoir au creux du pantalon, je suis chevalier d'Éon. Tour à tour, on me chasse de vos fréquentations, je n'admets qu'on menace mes résolutions. Je me fous bien des camps, dira-t-on, je suis caméléon. Prenez garde à mes soldats de plomb, c'est eux qui vous tueront. Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Fashion freak, monstre de mode, Nick Idol, bonsoir. Carl Sanchez dans le civil, bonsoir également.
Merci, bonsoir.
Vous êtes la figure la plus célèbre de l'art du drag aujourd'hui en France, l'animatrice redoutée, vénérée de l'émission Drag Race France. Bref, la reine des reines, c'est vous. Reine, c'est le titre de ce très beau livre consacré aux drag queens françaises, livre de photos, livre de portraits, livre d'histoire avec un petit et un grand H. Vous en faites la couverture et l'ouverture d'ailleurs, mais vous vous présentez, vous, comme l'outsider de la Galaxy Queen. Pourquoi ?
Parce que j'aime bien en fait considérer Nikki comme un éventail de portraits queen dans le branding des drags.
Le branding, c'est-à-dire l'élaboration de l'image.
Exactement.
C'est ça ?
On essaie de trouver un peu son univers, alors que moi, au contraire, j'adore pouvoir parcourir, faire mes petites valises et passer de la doll un peu pop à la doll un peu plus dark, etc. Et du coup, j'aime pas rentrer dans une case.
La doll, la poupée, donc.
Voilà, la poupée.
Une vingtaine de queens dans ce livre, un seul drag king, en revanche, ouais. La chanson de Mylène au tout début de cette émission. Il y a moins de drag kings, de femmes qui performent en hommes, ou est-ce qu'elles sont tout simplement moins visibles, comme c'est souvent le cas pour les femmes?
Alors déjà, le king est un art qui est pratiqué par plusieurs personnes, que ce soit des personnes cisgenres, des femmes cis, ou alors des hommes trans. Il y a aussi beaucoup de personnes non-binaires qui le font. Et c'est vrai qu'en fait, l'univers du drag queen a été beaucoup plus mis en valeur de par Drag Race, alors que l'art du king, qui est encore très underground, mais qui est aussi pratiqué, qui est très très intense, parce que les sujets abordés sont pas forcément les mêmes que les sujets abordés par les queens. Et c'est vrai que j'adorerais pouvoir voir plus de kings.
Et on peut imaginer un king dans une prochaine saison de Drag Race France ?
J'adorerais ça. Je pense que un king a tout à fait sa place. Maintenant, c'est pas, je suis pas le seul décisionnaire, et à voir, affaire à suivre.
Le message passe. Dans ce livre, comme dans votre série documentaire diffusée à la rentrée sur France 5, les voyages de Nikki, vous auscultez le mouvement. D'ailleurs, mouvement artistique ou mouvement politique?
Je pense que le drag restera à jamais avant tout un mouvement politique. On est un peu les licornes d'une communauté, mais pas uniquement une communauté LGBT. On est là avant tout pour réveiller un peu la société. On est avant tout là pour montrer que si un homme peut emprunter des codes féminins pour monter sur scène, on peut aussi peut-être remettre en question certaines choses de la société. Et du coup, on a, en tout cas pour moi, mission d'aborder certains sujets, bien sûr.
Ce que vous montrez, c'est que si leur émergence en France est assez récente, partout dans le monde et à toutes les époques, on a eu envie de jouer avec les frontières du genre. Et
bien
quand
sûr.
On est un homme, d'aller chercher du côté de son féminin.
Je pense qu'en fait, le drag a toujours été là. Il a enfin maintenant une plateforme et une voix. Mais on a toujours voulu s'amuser avec le genre. On a d'ailleurs, dans d'autres époques, dans le passé, on se prenait beaucoup moins au sérieux. On était beaucoup plus ce qu'on appelle maintenant genderfuck ou non-binaire.
Gender fluid aussi, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre. C'est ce que montrent d'ailleurs certains de vos épisodes des voyages de Nikki. Il y a d'autres endroits du monde où les choses sont beaucoup moins fixes.
Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais commencé ce projet-là parce que j'en avais marre en fait d'entendre des personnes à la télé essayer de nous dicter pourquoi une personne non-binaire devenait un phénomène de mode ou pourquoi transitionner était un phénomène de mode, alors que je savais qu'en Inde par exemple les femmes transgenres étaient vues comme des divinités, existaient depuis la nuit des temps et n'étaient pas du tout vues comme un phénomène de mode. Donc,
vous vous en amusez, vous vous les interrogez, hein, ces frontières et ces codes. Vous nous direz ce soir ce que Nikki et Carl font ensemble, finalement, qui ils sont l'un pour l'autre, au fond. Mais maintenant, si je vous tends ce miroir, Carl, que vous vous regardez...
Ouf, ok.
C'est les premières choses qui vous viennent. Pourquoi ouf, ok?
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite à New York et que je suis arrivé il y a 2 jours. Donc, je vois clairement la fatigue sous les yeux.
Mais ça va,
la lumière est assez flatteuse ici. Je reviendrai.
Et sinon, en dehors de l'aspect jet-lagué.
Je vois Carl, en fait. Carl est qui je suis, Nikki est qui, ce que je fais. Et je vois tout simplement un...
Vous aimez votre visage? À nu, sans maquillage, sans perruque?
Oui, beaucoup. Je suis en paix avec mon physique. Il n'est pas parfait. Il y a des jours avec, des jours sans, mais je suis...
Et ça a été un chemin pour vous? Ça a toujours été simple? On a un rapport plus ou moins simple au miroir, de toute façon. Mais pour vous, ça s'est passé de façon linéaire ou plutôt chaotique?
Non, pas du tout. Assez chaotique. Je pense que, en fait, avant de découvrir le drag, je dis toujours que j'ai appris à devenir un homme en m'habillant en femme. Et c'est pas pour de la poésie, même si c'est une très jolie phrase, je vous l'accorde. C'est ça, surtout parce qu'en fait, j'avais du mal à canaliser cette créativité, cette féminité. Et c'est vraiment en créant cette super-héroïne que j'ai enfin pris le temps de découvrir qui était Carl. Et c'est vrai qu'avant cette étape-là, j'avais beaucoup de mal à m'accepter parce que je m'étais beaucoup moins affirmée en tant que garçon. Donc j'avais du mal à vraiment comprendre ce que je voyais.
Il y a chez toutes les dragues, je trouve, toutes celles que j'ai pu rencontrer ici dans ce studio, toutes celles qu'on voit dans votre livre aussi, il y a un troublant mélange de mélancolie dans l'œil et en même temps de la vie en torrent qui emporte tout, qui emporte les vêtements, le visage, le sourire. Vous avez, vous aussi, ce clair-obscur en vous? Il y a ces deux faces-là?
Ah, clairement. Je pense qu'en fait, on arrive en fait à canaliser des expériences qui nous sont arrivées, qui ne sont pas forcément tout le temps très joviales. Mais je pense aussi que c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une profondeur dans notre personnage, parce qu'on est passé par toutes les émotions. Donc je pense que c'est ça que vous voyez dans le regard des personnes que j'ai pu présenter dans l'émission ou dans le livre, c'est qu'il y a une certaine part de peine dans le regard, parce qu'on n'a pas toujours été accepté à bras ouverts.
Et en même temps, la force de celles et ceux qui ont réussi à surmonter.
Voilà.
Ça. Et à retourner le stigmate et à en faire quelque chose, quoi.
En fait, c'est puisqu'on n'a pas forcément toujours été accueillis à bras ouverts, mais maintenant on va accueillir tout le monde à bras ouverts. Et c'est ça le torrent d'énergie.
Moi, je me dis qu'on a de la chance de vous avoir, Carl. Je suis, dites-vous, Nikki, est-ce que je fais masculin au réveil, féminin au travail, à la marge de la marge, et pourtant née presque au centre. Vous êtes définitivement le bienvenu sur France Inter.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi, tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps dans les trop tard de tes 30 ans. Ouais, tu étais déjà sous l'eau et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une 10e fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie. T'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour 1000 fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse.
Eddie de Preto, Love and Tendresse. Mais oui, on veut du love, on veut de la tendresse, on veut plus de Nicky Doll et plus de Carl Sanchez dans nos vies. Mélange de fantaisie et de mélancolie. Oui, c'est la couleur de notre balade en marge ce soir. Elle est duel, forcément duel.
France Inter, En Marge.
L'eau, la mer, les vagues, les mouettes, c'est l'élément qui vous a bercé, Carl, qui vous a nourri presque, élevé. Quel rapport est-ce que vous avez à ce qu'on entend là ?
Je crois que toute ma vie, en fait, j'ai toujours été près de l'eau. Faut savoir que je suis né à Marseille, en 91. Et à un moment donné, j'ai déménagé dans les Caraïbes, donc l'eau m'a suivi. Puis après, j'ai continué à Tanger, dans le nord du Maroc, toujours de l'eau et des mouettes. Beaucoup de mouettes d'ailleurs à Tanger. Et pour ensuite rentrer à Paris, pour un petit chapitre sans eau, et pour après arriver aux États-Unis.
Ça donne quoi cette enfance itinérante et au bord de l'eau ? Ça donne l'envie d'aller toujours voir ailleurs ou une difficulté à s'ancrer quelque part ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une maman qui a toujours voulu voyager en grandissant. Elle est tombée enceinte assez jeune, elle m'a eu et elle n'a pas changé ses plans. Elle a voulu continuer à voyager, elle rêvait des cocotiers. Et quand on est parti en vacances à Saint-Martin, dans les Caraïbes, qui est une île moitié française, moitié hollandaise, elle est tellement tombée amoureuse de l'endroit que après un mois passé là-bas, on est rentré tout liquidé, on est reparti et j'ai fait ma rentrée en septembre dans une nouvelle école.
Mais d'où ma question. Ça veut dire que vous êtes un petit garçon qui apprend à faire et défaire ses valises assez régulièrement.
Ouais.
Donc ça donne un homme qui sait les faire et qui sait s'adapter ou qui a au point d'avoir du mal à les poser quelque part.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grandissant, j'avais l'impression et j'étais fatigué de toujours être le nouveau. Et en fait, en grandissant et en devenant adulte, je remercierai jamais assez ma mère de m'avoir appris à pas être uniquement français ou caribéen ou marocain, mais être plus un citoyen du monde. Et du coup, je me sens à l'aise partout. Mais c'est vrai que je me sens chez moi, principalement à New York.
Vous avez un père, vous dites, vous, géniteur, il n'est pas vraiment là, surtout. Il y a eu des hommes dans la vie de votre mère, mais ils sont vite partis. Votre mère, c'est elle, le roc, le pilier, l'épicentre, les deux parents. De l'un à l'autre, autour de vous, il y a le vent qui souffle fort, il y a de beaux rayons de soleil, et puis, parfois, de l'eau, tout près du bord des yeux. Shadé, By Your Side, c'est votre mère, ça ?
Ah, c'est ma mère, tout craché. En fait, j'ai grandi en écoutant les albums de Shadé à fond dans la maison. Ma mère est très maniaque, donc elle fait le ménage trois fois par jour.
En écoutant Shadé, donc.
On dirait qu'elle vend l'appartement à quelqu'un qui va venir le visiter. Et en fait, elle mettait toujours de la musique à fond. Et du coup, j'ai grandi avec cette voix.
Quelle femme était votre mère ?
Ma maman, c'est une dame haute comme trois pommes, avec un tempérament de titan. Et c'est quelqu'un qui a dû retrousser ses manches toute sa vie pour y arriver.
Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier ?
Quel métier elle a pas fait, surtout ? Je pense que c'est ça la vraie question. Elle est infirmière de profession, mais elle a aussi tenu un salon de thé dans les Caraïbes. Elle a vendu dans son magasin des habits de surf, mais elle a aussi été décoratrice intérieure et professeure de français. Donc, et je crois que la liste continuera de s'allonger au fur et à mesure.
Qu'est-ce qu'elle vous a transmis ? L'idée qu'on pouvait être plusieurs dans un même corps, l'idée qu'on pouvait avoir plusieurs vies, quoi ?
Ma mère, elle m'a appris surtout à bosser pour avoir la chance de pouvoir avoir plusieurs vies, surtout, que rien n'était acquis. Et surtout de jamais s'empêcher de rêver, mais de toujours essayer de bien faire chaque chose qu'on entreprend. Et je pense que j'applique ça du mieux que je peux au quotidien.
Vous aurez plus tard, bien plus tard, une petite sœur, 9 ans de moins que vous. En attendant, vous avez toute la place, vous avez tout l'espace et un avis sur tout. La langue bien pendue et les jambes déliées, vous courez, vous sautez, vous dansez, on vous voit, vous êtes le bout en train de la bande. À l'école, vous détestez les maths, mais vous adorez inventer des histoires ou bien les écouter comme celle de Sakura, chasseuse de cartes.
Un jour, j'ai trouvé dans la bibliothèque de papa le livre de Clou. En l'ouvrant, j'ai laissé échapper des cartes magiques dont les pouvoirs sont très dangereux. Il faut maintenant que je les récupère. C'est comme cela que je suis devenue chasseuse de cartes.
Pourquoi elle vous plaît tellement, cette petite chasseuse de cartes? À l'époque, au moment où vous la regardez, dans vos yeux de petit garçon, dans votre tête de petit garçon, il se passe quoi?
Je pense que c'est la première fois que je vois autant de couleurs, autant de modes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle capture à peu près, je crois, une cinquantaine de cartes. Et chaque carte, en fait, maintenant, on pourrait dire que chaque carte est une queen différente. Et j'étais subjugué par la fantaisie de cette société fictive, par la culture pop japonaise. Et c'était, en fait, mon introduction à ce monde-là, ça a été via Sakura.
Et ce monde-là a fini par coloniser tous les murs de votre chambre. Vous avez une fascination pour le Japon et pour sa culture pop. Est-ce que vous savez, avec le recul, pourquoi? Qu'est-ce qui vous intriguait tant?
Ah ben, je le sais très bien. Je pense que c'était la première fois que j'avais une représentation masculine qui me ressemblait. Parce qu'en fait, au Japon, il y a une fluidité de genre qui est beaucoup plus souple. Mmh. J'avais plus besoin de vouloir ressembler à MacGyver ou à Terminator ou Bruce Willis. Non, maintenant, il y avait des hommes peut-être un peu gringalés avec une mèche et qui étaient un peu efféminés avec des traits fins, qui portaient beaucoup de couleurs et qui étaient... À l'époque, hétéro dans le dessin animé, et je me disais, bon, bah, peut-être que je le suis aussi, mais en tout cas, je me vois dedans.
On vous faisait ressentir cette différence quand vous étiez petit ?
Depuis tout petit. Depuis tout petit, quand on ne me prenait pas pour une fille, on me disait que j'étais efféminée, on faisait des jeux de mots sur mon prénom. J'ai toujours été trop féminin pour le masculin.
Pour les enfants, pour les adultes?
Pour les enfants, les blagues des enfants, des fois, divertissaient l'adulte parce que secrètement, il était d'accord avec. Mmh. J'ai eu droit à tout.
Sur votre table de chevet, il y a l'Iliade et l'Odyssée. Vous lisez, vous dévorez, vous rêvez, mais vous rêvez de quoi? À quoi devait ressembler votre vie plus tard?
Honnêtement, je ne sais pas si j'arrivais à me projeter dans le futur, mais en tout cas, j'arrivais à m'évader du présent dans la fantaisie. Donc, que ce soit l'Iliade et l'Odyssée, où c'était vraiment d'autres sociétés. En fait, j'adorais m'imprégner d'autres sociétés que celles dans lesquelles
j'étais. C'est encore l'eau, c'est encore le voyage, c'est encore l'ailleurs, c'est encore les autres.
Mais aussi le divin, la magie, le fantastique. C'est ça qui m'a toujours passionné.
En attendant, l'horizon pour vous ressemble à des plages californiennes baignées de soleil, plantées d'arbres et de jolies maisons bourgeoises. Vous regardez Newport Beach et vous kiffez. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come. Right back where we started from, California.
Tu connais cette série?
Alors, je ne la connaissais pas avant que, mais je suis beaucoup plus vieille que vous. Donc, il y a certaines choses qui se sont faites sans moi ou après moi, ou voilà.
Ouais,
je ne le tolère pas, j'avoue, hein, mais je dois le reconnaître.
Newport Beach, ça a été vraiment mes feux de l'amour à moi, mon amour, gloire et beauté que je regardais religieusement.
Et pourquoi? Ça vous raconte quoi? Ça vous dit quoi du monde? Ça vous apprend quoi?
Je pense qu'à ce stade-là dans mon évolution, je suis adolescent, je commence beaucoup à m'intéresser à la culture américaine, aux célébrités américaines, à l'anglais. Et c'est quand on a commencé à glamouriser un petit peu le mode de vie à l'américaine, californienne. Et du coup, Newport Beach, ça incarnait un peu tout ça, mais à ma tranche d'âge. C'est-à-dire que je regardais des gens de mon âge aller à l'école et être dans la même classe que moi, mais avoir des amourettes et avoir une vie d'adolescent qui était très différente de la mienne.
Et vous vous identifiez à eux ?
Ils me divertissaient, ils me faisaient rêver et je m'identifiais pas forcément à eux, mais j'aimais bien me voir dans une autre équation que la mienne.
Alors, il y a les ados, puis il y a leurs parents dans cette série. Il y a un père de famille, je crois,
qui est
officiellement hétéro.
Ouais, ouais.
Et en fait, pas du tout.
Oui, il y a le seul personnage queer dans la série, c'est un papa qui a menti depuis le début à ses enfants et à sa femme, et qui en fait est homosexuel, mais par la pression sociétale, ne s'est jamais autorisé à vivre sa vie. Et c'est que quand son fils se rend compte de la chose, le prend en flagrant délit, qu'il décide de faire son coming out. Donc c'était un peu la seule représentation.
Il n'y en avait pas d'autres à l'époque pour vous. Ça n'existe pas.
Non.
Vous, intérieurement, vous sentez quoi ? Vous sentez du désir pour les garçons, pour les filles ? Vous arrivez à poser des mots sur qui vous êtes ?
Au début, j'arrive à identifier ma sexualité étant différente que la majorité parce que je n'arrive pas à m'identifier en l'autre homme autour de moi, que ce soit mon géniteur, que ce soit mon beau-père, que ce soit mes camarades
ou MacGyver.
Quoique MacGyver, au final, il n'est pas si toxique masculin.
On est
hein, il est assez
on
smart.
Est d'accord, il y a un truc.
Et la longueur de cheveux aussi, c'était bon, assez fluide. Mais du coup, je m'identifie pas aux gens autour de moi. Et j'arrive assez rapidement à me rendre compte que déjà la féminité chez un homme, c'est quelque chose qui horripile les gens. Et j'arrive à me rendre compte aussi que généralement, quand je regarde des dessins animés, des séries ou même des films, la personne qui me ressemble le plus dans ces manières, c'est souvent le méchant, le serial killer, le méchant dans les cartoons, ouais. Que ce soit Jafar. Et donc, j'arrive assez rapidement... à comprendre en fait la mascarade qui est la société, parce qu'on a décidé, parce que je me rends compte que derrière un dessin animé il y a un dessinateur ou il y a un réalisateur, il y a des directions éditoriales qui sont prises, et ça je me rends compte assez rapidement, et je me dis en fait c'est un choix de prendre les gens comme moi en grippe, et donc en fait à partir du moment où j'arrive à me rendre compte de ça, je me dissocie complètement des insultes et je compare ça à la bêtise humaine en fait, et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir m'éloigner des gens autour de moi que je trouve toxiques.
Alors ça n'arrivera pas tout de suite, parce que vous ne pouvez pas partir tout de suite. Vous êtes adolescent, c'est l'âge des premiers émois, parfois ça commence même avant, des premiers amours. Pour vous, ça se passe où, quand, comment, avec qui ?
Quand j'étais en 6e, 5e, 4e, j'ai toujours été un peu le bout en train, j'étais toujours le bon ami et j'avais toujours les plus belles copines du collège.
Petites amies donc.
Alors pas encore, mais en fait de copines, elles se confient, elles se sentent à l'aise avec moi et en fait se créent des sentiments. Donc j'ai eu la chance d'avoir de très jolies petites copines, mais j'ai toujours su que c'était temporaire. Chapitre que j'ai beaucoup apprécié, j'adore la gente féminine et j'ai eu de très belles expériences, mais je savais que qu'il me manquait quelque chose, alors que quand j'ai commencé à vivre au grand jour mon homosexualité, donc à l'âge de 18 ans, une fois que je suis rentré à Paris, là je me suis rendu compte que j'étais comblé.
De tout ça, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous pouvait en parler à l'époque ? Là je parle vraiment de l'adolescence et des années de lycée.
Non. Et non, et c'est par choix, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman, elle a été très ouverte sur la question, mais peut-être un peu trop tôt. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont entendre ça et qui vont se dire, bon, c'est quand même assez privilégié de dire ça, mais je vous assure que je l'ai ressenti comme une trahison. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 6 ans, et ma maman donc, me prenait par la main, on allait à l'école, j'étais déjà sujet à beaucoup de moqueries et d'insultes, et on était, je me rappellerai toujours, c'était à Saint-Martin, derrière une église, il y avait un petit chemin comme ça qui menait à l'école. Et elle s'arrête et elle me dit, écoute Karl, maman elle a une question à te poser, est-ce que tu aimes les garçons ? Si tu aimes les garçons, il n'y a aucun souci, maman elle t'aime et elle sera toujours là pour toi. Je pense que la démarche de parents à ce moment-là, parce qu'il faut savoir, ma mère elle m'a eu à 22 ans, donc j'avais peut-être à peu près 6 ans, donc elle en avait 28, c'est jeune, j'en ai 32. Elle voulait juste pouvoir savoir, pour pouvoir encore mieux me défendre si besoin. Sauf que moi, à ce moment-là, quand elle me demande ça, je prends ça comme la pire des trahisons, parce que j'étais déjà appelé de, désolé du mot, mais de PD, de pédale, de plein d'autres noms d'oiseaux. Et là, ma mère, en fait, commençait à montrer qu'elle-même, elle avait le doute.
Ouais.
Et donc, en fait, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais faire mon coming out pour ne jamais lui donner raison, ni à elle, ni aux autres.
Ni à personne.
Jusqu'à l'âge de 18 ans, où je me suis dit, en fait... Bah si quoi, il est temps de le dire, il n'y a pas de souci.
Sauf que pour ça, il faut partir, il faut quitter Tanger, il faut gagner Paris. Un bac ES en poche, vous inscrivez en fac de communication, vous voyez organiser des événements, mais alors pas du tout monter sur scène, on peut dire que vous avez eu le nez creux. Just Dance, Lady Gaga, pour vous, c'est...
Oh, Lady Gaga, je crois que c'est pour moi, en tout cas, à ce moment-là, la première drag queen que j'ai vue de ma vie. pour ma génération à moi, ça
c'est
a été...
bien, vous soulignez qu'on n'a pas de la même génération. Vous avez intégré le fait que j'étais plus vieille et vous le faites à nouveau remarquer.
Non,
je note un gros moins dans la marche.
C'était pas pour vous uniquement, mais je sais qu'en fait, Madonna était une icône gay, pop et extravagante pour la génération, oui. Par exemple, de ma maman, Cher, celle d'avant, etc. Gaga, c'est vraiment la première où j'étais assez adulte pour comprendre l'artiste et encore assez enfant pour vraiment me laisser emporter.
Embarquer, ouais.
Et du coup, elle m'a fasciné parce que... parce qu'elle me faisait me sentir normal, en fait, dans mon côté freaky, mon côté complètement extravagant et peu compris, bah, je m'identifiais enfin en elle. Et
ça fait du bien.
Super performeuse, vocalement folle, j'adorais.
Queen entre toutes les queens, Carl Sanchez le jour, Nick Idol la nuit, vous êtes notre invité, vous êtes sur France Inter. Bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Ah,
c'est immédiat. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut vous figurer que les auditrices, auditeurs de France Inter sont parfois encore plus âgés que moi.
D'accord.
Donc, il faut prendre le temps d'expliquer. Carl, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on entend?
Alors, déjà, mesdames et messieurs, on entend un son. Si vous l'entendez chez vous et qu'il n'y a pas eu un coming out de fait avant, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Mais on entend tout simplement le son qui vous informe que vous avez reçu un nouveau message sur une application de rencontre gay. LGBT, qui s'appelle tout simplement Grindr.
Et que vous avez commencé, vous, à télécharger quand?
Je crois que j'avais peut-être 18 ou 19 ans, c'est arrivé pile à ce moment-là.
Et... alors, quand vous arrivez à Paris,
ouais.
Qu'est-ce que vous savez de la communauté LGBT, de l'identité queer et même des drag queens, en fait? Qu'est-ce que vous savez?
Quand je suis arrivé à 18 ans, j'étais très très innocent. La seule chose qui avait construit un petit peu ma culture LGBT, c'était la série Queer as Folk, qui m'a vraiment fait découvrir qu'il y avait des gens comme moi, et des communautés, et des soirées, même des clubs qui étaient spécialement pour des gens comme moi, alors que j'avais l'impression d'être une énergumène de la société. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'ai vraiment découvert tout sur le tas, quoi. Je savais même pas ce que c'était qu'une drag queen. Ou une personne trans.
Vous êtes un jeune homme curieux, accueillant,
exactement.
Festif, hein, et vous passez vos nuits au Queen, la célèbre boîte de nuit des Champs-Élysées. Là, qu'est-ce que vous voyez sur la piste de danse?
Bah là déjà je vois tout simplement une thérapie pour moi, parce que je vois des gens, des garçons se tenir la main, des filles s'embrasser, des gens libres, aussi des alliés tout simplement, des personnes hétérosexuelles complètement à l'aise autour de personnes comme moi. Et je vois sur scène après, je crois qu'il était 1h du matin, et je sens que la lumière change, il va se passer quelque chose. Et sur scène, trois sublimes créatures montent. Tyra, qui est une icône de la scène de la nuit en France, qui est une femme transgenre, et un gogo danseur et une créature, donc que j'arrive pas vraiment à genrer à ce moment-là. Et en fait, mes yeux s'écarquillent parce que je me dis, mais on n'est pas obligé de forcément être danseur ou chanteur, on peut aussi incarner une chanson, un playback. Et c'était la première fois que j'avais en face de moi quelqu'un qui faisait une sorte de performance cabaret sur la chanson de quelqu'un d'autre. Et là, ça m'ouvre des portes autres pour monter sur scène.
Vous avez 19-20 ans, vous dansez, vous draguez, vous chopez, et alors un jour vous parlez. Le coming out à votre mère, c'est à ce moment-là ?
Ouais, exactement.
Comment ?
Ben, j'ai attendu en fait d'être bien installée chez moi, et donc à l'âge de 19 ans, elle vient me voir à Paris pour la première fois, et je l'accueille place Sainte-Opportune, près de Châtelet. Et donc elle arrive, elle sort du métro, et il y a un café qui est juste en face de la sortie de métro de Place Sainte-Opportune. On s'assoit sur la terrasse, et donc je lui présente tous mes amis, et je la vois qui regarde un peu à droite à gauche et qui me demande, en chuchotant parce que ma mère est très discrète, elle me demande « Mais tes amis, ils sont tous... Et je dis « Oui ». Elle me dit « Et toi Je dis « Oui ». Elle dit « Ah, ok ». Excusez-moi, je vais vous prendre un espresso, s'il vous plaît. Et c'est tout. Voilà.
On est en 2010, vous avez sauté dans le vide et vos ailes, vous les avez déployées. En juin, c'est la Pride. Sur un char, vous montez. Cette fois, ça y est, Nicki Doll est née. Et une autre, Nicki, est l'une de ses bonnes fées. Yes, I did. Yes, I did. Somebody please tell them who the F I is. I am Nicki Minaj. I'm at Medusa. Back Medusa. Nicki Doll, parce que Nicki Minaj, il y a un lien.
Il y a clairement un lien. Quand j'ai commencé à analyser un peu quelle allait être la marque en fait de mon personnage, quand j'ai décidé d'en faire quelque chose de pro surtout, j'avais besoin d'avoir un nom qui était rapidement mémorisé, donc le moins de syllabes possible. J'étais très inspiré par le côté japonisant de Nicki Minaj, son côté très acidulé, très pop et très drag au final. Et son nom, qui est Nicki, je m'y suis identifié très rapidement. J'étais aussi très fan de Nicki Larson, faut le savoir. Et du coup, j'ai enlevé le I de Nicki Minaj, j'ai rajouté le Y de Nicki Larson, et j'ai mis Doll à la fin, parce que je voulais pouvoir avoir une versatilité dans mes looks, et pouvoir être une gothique Doll autant qu'une pop acidulée Doll, et du coup, Nicki Doll est née.
Je retraduis poupée pour ces auditrices et auditeurs qui seraient par ailleurs, comme on dit, dur de la feuille, et qui ne l'auraient pas entendu en début d'émission. Je parle pour moi aussi.
Oui, Doll veut dire poupée.
Évidemment, voilà, on est sur la poupée. Donc la poupée, elle monte sur un char.
Ouais.
À la Pride. Comment vous le vivez ? Vous vous souvenez de ce jour-là, de vos sensations, de vos émotions, de vos pensées ?
Bah, je m'en souviens très bien parce que ce jour-là, en fait, je décide de me travestir parce que je veux me réapproprier toutes ces insultes qu'on m'a faites en grandissant. J'étais toujours trop efféminée, une femme. J'ai tout entendu. Et donc le fait
de. C'est-à-dire qu'une femme est une insulte. Ça, il faut le rappeler, dans les cours de récré,
à l'époque, être
dans les... et aujourd'hui encore, toutes les études le disent et le prouvent, il y a deux insultes dans les cours de récré, c'est quand même, pardon pour les mots que je vais employer, c'est la pute et le pédé.
Ouais.
Et être une gonzesse, c'est clairement. Jamais bien vu non plus.
Et en fait, à ce moment-là, je ne sais pas si c'était la femme, l'insulte, ce qui était visé vers moi, mais c'était la féminité est plus faible que la masculinité, du coup je suis un homme faible. Et
on n'aime pas la vulnérabilité en général.
Exact. Et moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça, j'ai toujours adoré la féminité, j'ai toujours vénéré la femme parce que j'ai... Bah, mes deux parents, c'est une femme, et c'est ma déesse à moi, et du coup, et c'est pour ça aussi que je dis que le drag est une ode à la femme, en tout cas pour moi, et qu'il faut jamais le voir comme une insulte, parce qu'on est vraiment là pour célébrer les femmes, on est vraiment un allié, des alliés de la cause. Mais donc à ce moment-là, je décide de me réapproprier ma féminité, de me réapproprier ma vulnérabilité, et du coup de me mettre en femme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que sociologiquement, tout change. À partir du moment où j'ai des fossiles, une perruque, une robe, etc., bah, la personne qui pouvait... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même dans la communauté gay à l'époque, j'étais aussi montré du doigt parce que j'étais trop efféminée.
Oui, c'est-à-dire que ces codes-là, avec cette hiérarchie des normes-là, sont reproductibles dans toutes les communautés. Et la communauté LGBT, QI+, n'y fait pas exception, malheureusement. Non. C'est qu'il y a, de toute façon, une norme, une catégorie au-dessus des autres.
La masculinité.
Plus tu es viril,
exactement,
mieux c'est.
Et donc, j'avais envie aussi de briller dans ma féminité, même autour des gens qui sont censés faire partie de ma communauté. Et je me rends compte que du coup, les gens s'ouvrent plus facilement à moi, sont beaucoup plus vulnérables avec moi, ont envie de rire avec moi. Je deviens vite un peu cet élément de fun, de bonheur. Et donc, je me rends compte très rapidement, encore plus à quel point la société un peu est une mascarade, tout simplement, et superficielle, parce que maintenant que j'ai une perruque en plastique, bah, je suis encore plus attirant pour les gens, alors qu'avant, bah, pas forcément. Et donc, je décide d'en jouer. Je décide de jouer avec le genre, je décide de jouer avec les codes et de me les réapproprier, de m'amuser avec.
Qu'est-ce qu'elle vous permet, Nikki ? Qu'est-ce que fait Nikki que Karl n'oserait jamais faire, par exemple ?
Ben en fait, elle permettait, parce que maintenant Karl il se permet autant de choses que Nikki, elle permettait à Karl de pas se remettre en question. Nikki, okay, elle fonçait la tête la première, elle laissait son âme s'exprimer sans aucune...
C'est le bélier, c'est l'allié, est-ce qu'elle vous protège aussi, en quelque sorte?
Ah bah oui, bien sûr. Ouais. En fait, quand je décide de me maquiller, de me transformer, c'est exactement comme une tenue de super-héros. C'est qu'en fait, je suis caché en dessous. C'est moi qui suis aux commandes du Transformers, mais c'est vraiment elle qui assume le regard des autres.
Vous avez toujours chanté, Karl. Vous aimez chanter, elle va vous permettre de le faire en public et applaudi. Mais pas assez au départ pour en vivre. Vos études tournent court. Par ailleurs, vous apprenez trop tard que pour les poursuivre, il vous fallait une entreprise, un contrat d'alternance. Vous vivez à Paris. Paris, c'est cher. Comment payer le loyer? Comment ne serait-ce que vous acheter à manger? Et c'est là qu'une autre fée se penche sur votre berceau. Un ami vous conseille de rentrer chez MAC, la marque de maquillage, sans diplôme, sans bagage, mais ça marche. Vous êtes heureux comme maquilleur?
Très heureux. Très heureux parce que pour la première fois, en fait, j'ai une profession qui me permet d'apporter un sourire et de la confiance aux gens. Je deviens en fait ce détenteur du savoir absolu sur comment être fier de soi et se sentir invincible. Et en fait, j'adore j'adore avoir ce rôle-là pour les gens. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai eu une cliente qui a fondu en larmes parce que j'ai réussi à lui apprendre à se remaquiller les sourcils après qu'elle ait fait de la chimiothérapie. Donc, le maquillage a toujours été pour moi un élément réparateur et un révélateur de personnalité.
Mais Nikki Doll, elle est comme ça aussi. Elle a quelque chose de... Alors, elle peut sortir la cravache, mais toujours gentiment, je dirais. En même temps, sortir la cravache gentiment, c'est un concept.
À explorer.
Je dirais moi-même. Je dirais, elle a quelque chose de maternant aussi. Elle a quelque chose de très bienveillant.
Bah, je vais vous avouer quelque chose. J'ai toujours été très pédagogue. Et avant d'explorer la partie artistique, mon rêve, c'était d'être professeur des écoles.
C'est vrai?
J'ai toujours rêvé d'avoir une classe de CE1, CE2, d'avoir mes codes, mes bons points, ma décoration, mes langages codés avec mes élèves et d'être un peu ce parent. Et donc, je pense que ça, c'est cette fibre pédagogue, elle s'est intégrée dans les autres choses que j'ai faites.
L'homme qui partage votre vie à ce moment-là est un peu moins heureux que vous. Il est américain, il vit en France pour vous, mais il n'y est pas si bien que ça. À votre tour de le suivre, donc, et jusqu'aux États-Unis. Première étape, San Francisco, lieu historique de la vie LGBT, ville chargée d'histoire, ville ouverte sur le grand large. Elle devrait être faite pour vous. Et en même temps, ça ne se passe pas si bien que ça. Pourquoi ?
Écoutez, j'ai adoré visiter San Francisco. Je vous conseille d'y aller. Il faut juste avoir un billet de retour. C'est tout. En fait, c'est une ville qui est très jolie, très pittoresque. C'est vrai que c'est l'une des villes visuellement qui paraît être la plus européenne des États-Unis. Maintenant, le San Francisco qu'on a pu voir dans les films ou dans les séries ou dans Harvey Milk ou ce genre de choses, c'est San Francisco des années 80.
Okay.
Maintenant, c'est un dortoir à boîte tech, que ce soit Dropbox, Facebook, Snapchat et autres. Enfin, toute la Silicon Valley. Et malheureusement, c'est devenu trop cher pour les artistes parce que c'est aussi cher que New York sans tous les atouts de New York. Donc du coup, en journée, il y a beaucoup, malheureusement, de sans-abri, de drogués ou personne.
C'est pour ça que Nikki renaît là-bas, parce qu'il faut gagner un peu d'argent ?
Nikki, pas forcément, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai déménagé aux États-Unis, je voulais vraiment me lancer à fond dans ma carrière de maquilleur, et je me disais surtout que j'arrivais dans un pays où le drag en termes de business était né. Oui. Donc je me suis dit, je serais pas à la hauteur du tout, j'ai pas du tout les mêmes bagages, j'ai pas été formé de la même manière. Mais bizarrement, un jour, pour rigoler, je vais dans un bar. Et la queen qui présente la soirée dit « N'oubliez pas, mardi prochain, compétition de drag amateur. » Et donc mon copain à l'époque me dit « tu devrais t'inscrire et tout. » Et donc je dis « Non, je suis pas amateur, je vais pas le faire. » Et quand je dis ça, elle dit « Grand prix de $500. » Donc du coup, vous imaginez bien que j'ai été prendre le stylo et que j'ai rajouté mon nom. J'ai gagné. Et je me suis vite rendu compte que malgré le fait que je venais d'un autre pays, que culturellement je faisais le drag différemment, j'attirais quand même vachement l'attention parce qu'il y avait apparemment une manière à la française de faire cet art-là.
Alors, d'un concours de drague à un autre, vous commencez à vous faire un nom, mais c'est votre départ pour New York qui vous fait décoller vite et fort, tant et si bien que vous candidatez pour rejoindre la 12e saison de RuPaul's Drag Race, concours de drague hautement télégénique, un carton depuis ses débuts, et donc vous en êtes. Vous êtes embarqué dans ce show qui est incroyable et contre toute attente, vous quittez le navire de vous-même à mi-parcours. Pourquoi ?
J'ai postulé pour la saison 12 parce qu'en fait, j'étais curieux de savoir à quoi ressemblaient les auditions. Il y a des queens qui ont postulé pendant 13 ans, qui n'ont jamais été prises. J'ai été prise tout de suite. Et donc, je pense que déjà, je me sentais pas forcément prête de faire tout ça en anglais. Je m'étais mis énormément de pression parce que je portais mon pays pour la première fois, pas juste mon pays mais aussi ma langue. Pour la première fois, c'était la première fois qu'on avait une française, une francophone dans l'émission.
On est en quelle année, rappelez-nous ?
On est en 2020. Ça passe à la télé en 2020. Et au bout d'un moment, je me rends rapidement compte qu'en fait, culturellement, je vais pas avoir les bagages suffisants pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et du coup, je décide de rejoindre le port avant que le navire coule. Et je regrette pas du tout ma décision parce que du coup, j'ai réussi à en arriver là où j'étais. Mais c'est vrai que c'était une expérience très traumatisante de pas pouvoir être la même version de moi-même en anglais que je suis en français. Ma personnalité ne brillait pas de la même manière.
Vous rentrez en France, auréolée de votre aventure américaine. Une Française chez RuPaul, c'est une première. Donc vous donnez vos premières interviews, vous commencez à avoir votre petite surface médiatique. Mais intimement, pour vous, qu'est-ce que ça change tout ça ? Sur votre chemin, qui est le vôtre, cette saison de RuPaul, cette exposition médiatique, ça change quoi ?
Ça change tout parce que ça me permet de... En fait, je dis toujours que Drag Race, c'est un peu comme un saut en trampoline. Vous sautez, vous avez 9 mois... pour faire ce que vous voulez en l'air et capter l'attention du public avant de redescendre et que quelqu'un d'autre passe. Et donc en fait, même si j'avais pas gagné, même si j'étais parti au milieu, même si j'avais encore beaucoup de choses à prouver, etc., j'avais l'attention du public. J'avais l'attention du public et il était temps de retrousser ses manches parce que je dis toujours que Drag Race commence quand Drag Race s'arrête. Et du coup, ça m'a permis de vraiment commencer tous les projets que j'aurais voulu faire.
Dont celui-ci, et pas des moindres, le producteur Raphaël Tchoffi vous contacte. Depuis des années, il veut adapter Drag Race en France. Avec vous comme animatrice, il y croit, ça va marcher. Il a raison, ça a marché.
Moi c'est Ginger, mais le moteur, 100 kilos d'amour et de bonheur. Mais ne me prends pas pour une quiche, sinon crois-moi, je deviens la reine des biches.
7 millions de téléspectateurs sur France de la première saison, 11 millions pour la deuxième, succès inattendu, inespéré même. Qui raconte quoi, Karl, selon vous ?
Qui raconte tout simplement que mon pays était prêt, en fait, à pouvoir accepter l'art du drag comme un art à part entière, prêt à pouvoir avoir des représentations sur la transidentité, sur la non-binarité, sur l'expérience queer.
Prêt à entendre parler de séropositivité le soir sur une chaîne du service public, prêt à entendre parler de harcèlement, prêt à entendre parler
de grossophobie, en fait, de plein de sujets de société qui existent dans toutes nos rues et qui sont très peu souvent abordés. Mais
parce qu'il faut le dire, c'est du spectacle magnifique, vraiment. Et en même temps,
Il y a des artistes derrière qui se cachent derrière tout ce maquillage et en fait on comprend leur parcours de vie et comment elles en sont arrivées là. Et aussi l'une de mes plus belles surprises, c'est pas uniquement la célébration des personnes queer, mais c'est aussi l'ouverture d'esprit des alliés qui l'ont regardé. Mmh. Et je crois que c'est la chose qui me, ça me donne des frissons là, mais c'est la chose qui me touche le plus parce que clairement en fait déjà ça m'a rendu fier de mon pays. Ça m'a rendu fier de notre peuple et de voir qu'en fait notre société elle était prête, il était temps que la télé arrive au même niveau que les gens.
Vous vous apprêtez à tourner la saison 3, vous êtes de retour en France pour ça d'ailleurs, et c'est grâce à ça qu'on vous a ici avec nous dans ce studio. Mm-hmm. Vous n'avez rien le droit de révéler évidemment, mais...
Ah si, je peux juste vous dire qu'il y aura une gagnante.
Waouh, incroyable.
You're welcome.
Mais on va dire que pour la saison 3 de Drag Race France, il va y avoir du...
Il va y avoir encore plus de performances, encore plus d'incroyables artistes. Certainement pas d'ennui, certainement pas... c'est tout, je pense l'ennui, on va laisser la porte ouverte à plein d'autres choses.
Et puis vraiment beaucoup de quoi ?
Beaucoup d'amour, beaucoup de talent et beaucoup de drague.
Eh bien merci beaucoup, vous ne bougez pas, je vous présente l'équipe à la technique. Adèle Caglar, Lucie Lemarchand à la réalisation, Félix Vivier chargé de programmation. Et ça c'est Doja Cat, tout chaud. Vous êtes sur France Inter, c'est Djoubaka qui signe la programmation musicale de cette émission. Vous en retrouverez toute la playlist à la page d'En Marge sur le site de radiofrance.fr, exactement à l'endroit où vous pourrez nous podcaster, et ce sans aucune modération.
En Marge sur France Inter.
Ça va ? Vous entendre, ça va aussi maintenant ?
Oui.
Ouais. Ça, c'est un titre de Nicki Doll, Attention.
Yep.
Ça, c'est la suite pour vous ? C'est un album ? C'est la chanson ? C'est...
Oui, ça reste ma passion première. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé écrire des paroles. Attention est le premier single que j'ai sorti l'année dernière. Fashion Freak est mon deuxième. Et là, je sors d'autres sons. Et j'ai enfin répondu aux attentes de plein de gens qui est de sortir des sons en français. Mm-hmm. Donc attendez-vous à de l'anglais,
ça
mais
veut
du
dire
français aussi.
Un peu plus à nu.
Exactement, c'est quelque chose, je vous avoue que j'ai eu du mal à comprendre pourquoi j'étais aussi réticent à chanter en français.
On dit reluctant en anglais, je t'écoute.
Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça, c'est juste que je connecte beaucoup plus aux mots. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de performer quand on doit assumer ce qu'on dit.
Mm-hmm. Mais vous le dites et vous le direz toujours en Nikki, ou est-ce qu'à un moment donné, vous envisagez de la laisser sur le côté et d'avancer en Carl, quoi qu'il arrive?
Honnêtement, je vois déjà plus Nikki comme le seul cheval de Troie. Je pense que Nikki, c'est juste comme une tenue, en fait. C'est une manière pour Carl de s'exprimer. Mais il n'a pas besoin que de Nikki pour le faire. C'est vrai que c'est plus fun, forcément, visuellement. Pour moi, comme pour le...
Elle vous permettait des choses, ou qu'elle a permis à Carl certaines choses.
Ouais.
Et c'est vrai que, par exemple, si on pense juste colorimétrie. Aujourd'hui, vous êtes bonnet noir, sweat noir, là où Nikki travaille beaucoup les couleurs.
Ouais.
On est vraiment aux antipodes. On a deux images très, très différentes.
Ouais.
On peut imaginer que, chemin faisant, de même que vous mettiez à chanter en français, vous mettiez un peu plus à nu, en noir et sans maquillage, sans perruque.
Oui, bah, je pense qu'il y aura peut-être des sons qui le permettront. Mais je me dis, si Prince chantait en Prince, il est autant drag que Nikki Doll. Mmh. Donc en fait, je pense que pour monter sur scène, on doit se créer de temps en temps un personnage.
Un avatar.
Voilà, exactement. Ouais. Mon avatar, il se trouve être féminin et ressembler plus à une Suédoise qu'à un Marseillais. Mais voilà.
Suédois sublime, on peut le dire.
C'est
quand
gentil,
même.
Merci.
Si on regarde plus loin encore, loin vers quelque chose qui ressemblerait à l'éternité, la bande son, ce serait ça.
Oh. De l'or à l'état pur, cette chanson.
C'est quoi, dites-nous?
C'est une chanson qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire, qui m'a fait me concentrer. J'ai réussi mon bac uniquement grâce à cette chanson. Parce
alors, c'est la bande originale d'American Beauty, pour tous ceux qui se disent « Mais je la connais, cette musique, qu'est-ce
Thomas
que c'est ?»
Thomas Newman, Any Other Name, et c'est dans la bande son de American Beauty. Et c'est une chanson qui me fait vraiment quitter la planète et rentrer dans mon subconscient.
Et alors, dans votre subconscient, qu'est-ce qui se passe pour qu'il se sente bien, votre subconscient? Quelque chose qui lui ferait se sentir bien partout, là où il va? Un objet que vous emmenez avec vous, ce serait quoi?
Ben, j'ai pas une très grande famille, j'ai que une maman et une petite sœur. Et c'est vrai que ma maman, elle m'a offert un collier il y a longtemps. Il y a maintenant presque 16 ans. Et c'est un collier que j'ai très souvent avec moi. Alors, par honnêteté...
Vous dire à votre mère que vous l'avez oublié aujourd'hui ou pas?
Voilà, j'allais vous le dire. En fait, pour vous savoir, je suis arrivé il n'y a pas longtemps de chez moi, de New York. J'ai fait une lessive, j'ai enlevé mon collier et je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais c'est un cœur avec des ailes d'ange. Et je le porte tout le temps avec moi. Il m'a toujours porté très chance.
En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment, Carl.
Merci
Reine,
à vous.
L'art du drag à la française. Très beau livre coécrit avec Mathieu Bobardelière. C'est chez Hors Collection. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.